enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Et nous lirons ensemble les versets 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous ne l'avons mérité nullement. C'est une grâce qui nous a été faite, celle d'être sauvés. L'apôtre Paul introduit ce texte en disant simplement « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Je vous rappelle ce soir que le terme « mort » peut avoir trois significations différentes dans la parole de Dieu ou sous-entendre trois choses différentes. La première de ces choses, lorsque le terme mort est employé, il nous fait penser automatiquement à la mort physique, c'est-à-dire la séparation de l'âme du corps. Le corps retourne à la terre d'où il a été tiré et l'âme part dans l'au-delà. Un deuxième sens, le terme mort est employé lorsqu'un homme vit ici-bas selon ses propres principes en négligeant Dieu et sa parole. Aux yeux de Dieu, cet homme est mort. C'est-à-dire que spirituellement, s'il venait à mourir, il serait séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est là le troisième sens dans lequel est employé le terme mort, lorsqu'après votre mort, vous êtes séparé pour toujours de Dieu, sans possibilité de retour. Ce soir, j'aimerais m'adresser à la deuxième catégorie, c'est-à-dire à ceux qui sont morts spirituellement tout en étant vivants ce soir sur leur chaise. Vous pouvez exister physiquement, vous pouvez vivre, parler, communiquer, avoir un travail, une maison, vous pouvez même engendrer, et pourtant aux yeux de Dieu, vous êtes morts parce que vous n'avez pas reçu le seul qui pouvait vous donner la vie, et je dirais la vie éternelle, c'est Jésus le Sauveur. À partir du moment où Jésus le Sauveur est absent de votre vie, vous êtes considéré comme mort, et c'est pourquoi vous verrez Jésus qui dira cette phrase surprenante à un de ses disciples qui lui dit « Avant de te suivre, laisse-moi encore aller enterrer mon père » et lui dira « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Il est évident que ce n'était pas un mort qui enterrait un mort, mais bien un homme vivant physiquement qui enterrait un mort physique, mais aux yeux de Dieu. Celui qui a refusé la grâce est tout aussi mort que celui qui est froid en train d'être mis en terre. Il est mort parce qu'il est coupé de lui pour l'éternité. Alors, voyez-vous, le terme « mort » est employé. Lorsque nous voyons un corps mort, nous pouvons à peu près mesurer l'effet que la corruption peut faire sur un corps humain. Et l'apôtre Paul va lui faire un parallèle. Il dira « Vous étiez mort par vos offenses ». C'est-à-dire que votre chair, votre âme était en train de se corrompre, autant que la mort a un effet corrupteur sur le corps physique. Nous l'avions dit ensemble, lorsque Adam et Ève pécheront, va entrer en jeu la mort. L'homme et la femme n'étaient pas destinés à mourir. Et nous aurions très bien pu imaginer que l'homme et la femme puissent vivre éternellement sans connaître la mort. Pourquoi l'étape de la mort ? La Bible, dans le livre de la Genèse, nous donne une réponse très précise. Parce qu'ils pécheront, la mort entrera dans le monde. C'est par Adam que la mort est entrée dans le monde. Il n'est pas mort immédiatement, mais le germe corrupteur de la mort était en lui. Il vivra 930 ans. Nous ne vivons plus 930 ans. Heureusement pour les politiciens. Je ne sais pas comment ils feraient pour les retraites. Mais nous mourrons également comme Adam, Ève et tous ceux qui nous ont précédés. Alors pendant un moment, bien que cela puisse sembler être une gymnastique très macabre, essayez d'imaginer ce que la mort produit. J'ai malheureusement, parfois malgré moi, parfois par les circonstances, parfois par le ministère que je remplis, été en contact avec des personnes qui étaient décédées. Il est quand même difficile ce soir d'imaginer ce que nous serons quand nous serons morts physiquement. Je suis convaincu que pour chacun d'entre vous ce soir, il est extrêmement difficile d'imaginer qu'un jour, votre regard plein de vie ce soir soit éteint. Il est difficile d'imaginer que ces langues qui ce soir ont loué le Seigneur ne soient plus qu'un peu de boue. Et il est plus difficile encore d'imaginer les insectes, les vers, qui viennent m'aider dans un régime que je n'aurais pas choisi. Vous allez me dire ce soir, mais qu'est-ce que c'est dégoûtant? Mais quelle idée! Et pourtant, mes amis, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, un jour, ce sera comme ça. Bien des gens nous ont précédés. Ils pensaient comme nous. Ils parlaient comme nous, ils vivaient comme nous, presque convaincus que la mort ne concerne que les autres, mais pas eux. Et un jour viendra où eux aussi sont morts. Alors vous savez, j'ai vu les réactions spontanées. Lorsque la personne vient de mourir, j'ai vu les plus proches. Chose normale, chose que je pense je ferai de la même manière. Eh bien, serrer l'être qui vient de mourir. Mais leur attitude et leur réaction étaient bien différentes lorsque la personne reposait depuis 2, 3 ou 4 jours. Et je suis sûr que cela nous répugnerait de le faire si nous devrions le voir 3 mois, 4 mois plus tard. J'ai entendu des secouristes, ou plus particulièrement des pompiers, qui me disaient « Mais c'est terrible de découvrir un cadavre qui est là depuis des semaines, c'est horrible !» Il y a là une odeur repoussante, c'est un spectacle désolant. Mes amis, ce soir, eh bien, j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul emploie le même parallèle pour dire que c'est dans cet état que votre âme se trouve aussi longtemps qu'elle n'est pas régénérée par Dieu. C'est-à-dire qu'elle se corrompt intérieurement et se détruit. Et devient à la fin, si cette œuvre de péché, de corruption dans l'âme continue, aussi repoussante que peut l'être un corps sans vie après des mois. Alors oui, nous avons du mal à l'imaginer et nous avons du mal à le concevoir. Nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et tant que l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ ne s'est pas faite en nous, nous sommes considérés comme morts et le péché a cet effet corrupteur sur ton âme. Le péché a engendré la mort physique, un. Mais je vais te dire qu'il engendre la mort spirituelle, deux. Et celle-là est bien plus dramatique. Si ce soir, tout d'un coup, tu avais une vision spirituelle de ton âme, et que tu vois que ton âme, eh bien, est attaquée par des asticots, qu'est-ce que tu ferais? Quelle horreur! Je suis sûr que les uns et les autres, eh bien, nous réagirions, nous disons, mais c'est pas possible, est-ce là mon âme? Est-ce possible que mon âme soit dans un tel état de corruption? Oui, ami, j'aimerais te le dire ce soir. Ton âme est dans un état de corruption tant que le Rédempteur n'est pas venu dans ta vie. Tant que tu es coupé de Dieu, tu as une âme qui se détruit de par le péché. Alors, il est effrayant de voir un corps mort, mais je dirais qu'il est plus effrayant encore de voir une âme qui se corrompt et qui se détruit. J'aimerais ce soir vous parlez de 3 résurrections. 3 résurrections que Jésus opérera. Et ces 3 résurrections, eh bien, nous allons les transposer dans le domaine spirituel. La première de ces résurrections, c'est la fille de Jaïrus, dans Marc 5, versets 35 à 43. J'aimerais m'arrêter avec vous sur ces 3 faits pour voir ensemble les différences extérieures qui existent entre les âmes inconverties, quoique leurs conditions soient au fond la même. Il existe des différences. À l'apparence, les âmes inconverties sont différentes les unes des autres. Pourtant, leur condition au fond est la même. Deuxième chose, les différents moyens de grâce employés pour vivifier les pécheurs, quoique la vie ne procède que d'un seul, c'est Jésus-Christ. Marc 5, versets 35 à 43. Nous allons faire ces trois lectures, puisque nous nous appuierons là-dessus ce soir. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais il dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Gardez ce récit en mémoire. Luc 7, versets 11 à 16, une deuxième résurrection, c'est celle du fils de la veuve de Naïm. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Et une troisième lecture dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 11. Et nous avons là le récit de la résurrection de Lazare. Il nous est dit au verset 33, « Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire un aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. Amen !» Mes amis, trois résurrections, trois morts, l'instant de la mort des uns et des autres est différent. Nous avons le premier récit qui nous parle de la fille de Jaïrus. La Bible nous dit qu'elle vient de mourir. L'on pourrait penser qu'elle est encore vivante. Elle vient juste de décéder. Mais pourtant, elle est morte. Le second, le fils de la veuve de Naïm. Sur son visage et son corps tout entier, la mort a déjà fait une œuvre plus marquante. Il est dans son cercueil, transporté pour aller vers la tombe. Pourtant, je me permets de le faire remarquer, il n'est pas plus mort que la petite fille, ni moins mort qu'elle. Ils sont tous les deux simplement morts. Et puis, le troisième, Lazare, quelle horreur! Il sent déjà. Il est déjà, lui, dans la tombe, non plus en route pour la tombe, il est dans le sépulcre. On a mis une pierre devant l'entrée et il sent mauvais. Pourtant, il n'est pas plus mort ou moins mort que les deux autres, il est simplement mort. L'expression de la mort est différente sur son corps. La corruption a fait une œuvre plus grave, mais la petite fille n'est pas moins bien placée que lui, elle est morte. Le fils de la veuve de Naïn n'est pas mieux situé, il est mort. Et Lazare, eh bien, gisant au fond de son sépulcre, est tout simplement mort comme les deux autres. À quoi cela me fait penser? Eh bien, tout simplement, j'aimerais reprendre la petite fille. Voyez-vous, la petite fille représente l'image de bien des personnes. Elle paraissait encore vivante, quoique morte. Je suis arrivé malheureusement dans des circonstances absolument dramatiques, au chevet d'un jeune homme qui venait de mourir d'une overdose. Cela venait d'arriver. Et c'était absolument poignant, vous savez. On aurait pu penser qu'il était là en train de dormir, mais manifestement, il n'y avait plus de vie en lui. Il avait tout l'apparence, il avait encore les habits du jour. Il était encore comme il avait été habillé là 2 heures auparavant. Il était sur ce canapé affalé, mais il était mort. À l'apparence, de loin, on aurait pu penser, il est en état d'ébriété peut-être, en train de dormir profondément. Mais non, ami, il était mort. Quoique sa mort ne se voyait pas forcément de manière très flagrante, la vie l'avait pourtant déjà quitté. Cela me fait penser à toutes ces personnes dont l'âme est encore pleine de grâce, voyez-vous. Elles ne sont pas encore atteintes de manière évidente par le péché. Le péché n'a pas encore fait son action corruptrice en eux. Ils ont l'apparence d'être encore très bien. Ils ont encore les habits du jour. Ils ont même encore un tas d'amis autour d'eux. La petite fille était entourée. La mort n'était pas encore répandue largement. Cela venait de se produire. Sa maman pleurait, ses plus proches pleuraient sur elle. On la caressait. J'ai vu de mes propres yeux ce genre d'événement. Je l'ai vu. J'ai vu des mamans serrer leur enfant en disant « Réponds-moi, réponds-moi » en les couvrant de baisers. Mais ils n'étaient plus là. J'ai vu la fiancée de ce jeune homme lui dire « je suis là, je suis près de toi, je suis là ». Mais lui n'était plus là. À l'apparence, oui, il était encore tiède, mais il n'était déjà plus là. Et aucun baiser au monde n'aurait pu le ramener à la vie. Mes amis, bien des âmes sont exactement comme la petite fille. Le péché ne se voit pas encore de manière flagrante dans leur vie, mais la semence corruptrice du péché est déjà dans le cœur. Elle est déjà là, ils sont déjà spirituellement morts. Oh, ça ne se voit pas. Vous êtes peut-être jeune ce soir. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire tout ce que vos aînés ont fait. Ou peut-être avez-vous eu l'occasion d'être protégé. Et puis, vous vous comparez aux autres en disant « Mais moi, je n'ai jamais fait ce que les autres font. » Et en général, on fait référence à ceux qui sont pires que nous et pas à ceux qui sont meilleurs, n'est-ce pas? On ne se réfère jamais aux meilleurs. On se réfère toujours aux pires. Pourtant, j'aimerais vous dire ce soir que vous êtes déjà morts. Le péché est là, la semence corruptrice est là, et elle vous détruira tôt ou tard, petit à petit. Ça va être un processus long, mais ce que j'aimerais vous dire, un jour, votre excellence, votre apparence s'évanouira pour laisser place à ce qu'il y a là, planté au plus profond du cœur. La petite fille, si Jésus n'était pas intervenu, au bout de 4 jours, aurait exactement ressemblé à Lazare. La petite fille, si Jésus... Ils ne se voient pas encore de manière flagrante dans leur vie, mais la semence corruptrice du péché est déjà dans le cœur. Elle est déjà là, ils sont déjà spirituellement morts. Oh, ça ne se voit pas, vous êtes peut-être jeune ce soir. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire tout ce que vos aînés ont fait. Ou peut-être avez-vous eu l'occasion d'être protégé, et puis vous vous comparez aux autres en disant « Mais moi je n'ai jamais fait ce que les autres font », et en général on fait référence à ceux qui sont pires que nous et pas à ceux qui sont meilleurs, n'est-ce pas? On ne se réfère jamais aux meilleurs. on se réfère toujours au pire. Pourtant, j'aimerais vous dire ce soir que vous êtes déjà mort. Le péché est là, la semence corruptrice est là. Et elle vous détruira tôt ou tard, petit à petit. Ça va être un processus long, mais ce que j'aimerais vous dire, un jour, votre excellence, votre apparence s'évanouira pour laisser place à ce qu'il y a là, planté au plus profond du cœur. La petite fille, si Jésus n'était pas intervenu, au bout de 4 jours, aurait exactement ressemblé à Lazare. La petite fille, si Jésus n'était pas intervenu, au bout de 2 jours, aurait exactement été dans la même situation que le fils de la veuve de Naïn. Il fallait que Jésus intervienne. Et dans toutes les 3 situations, il va falloir que Jésus intervienne. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il n'y en a pas un dans ce lieu qui puisse dire « Je n'ai pas besoin de Jésus ». Si Jésus n'intervient pas, tu es mort. Oh, tu peux encore te cacher derrière ta façade. Oh, tu as encore l'apparence d'être bon, d'être juste, d'être droit, mais déjà, tu es mort. Et tu as besoin de l'intervention du Sauveur. Tu me diras, je n'ai jamais volé, pasteur, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela, mais tu ne me parles pas de toutes les pensées qui t'animent déjà maintenant. Toutes les pensées qui peuvent passer dans la tête d'un jeune, d'une jeune fille, d'un jeune homme, adolescent, adolescente, on n'en parle pas, on se tait là-dessus, mais pourtant, quelles abominables pensées peuvent déjà passer. Oh, avant que les actes viennent, c'est les pensées qui naissent. Le péché étant consommé produit la mort. Mes amis, ce soir, peut-être êtes-vous là. Vous avez toujours pensé que vous étiez bon. Un jour, une sœur de l'assemblée m'a dit la chose suivante, et j'ai été touché par cela. Elle m'a dit, vois-tu Samuel, nous avons eu une vie de famille qui était très équilibrée. À mon mari, j'ai toujours été fidèle et il m'a toujours été fidèle. Nous avons convenablement élevé nos enfants. C'est une réussite. Dans ce sens qu'ils ont eu une éducation. Tout n'a peut-être pas toujours été très parfait, mais nous avons fait le meilleur de nous-mêmes. Et nous allions régulièrement dans notre église. Nous avions une tradition et nous pensions que cela faisait partie de la vie. Et je me disais toujours que finalement, eh bien, j'étais au moins aussi bonne que le reste des autres êtres humains. Pour ne pas dire presque au-dessus de la moyenne. Mais un jour, touché par Dieu, interpellé par lui, il m'a montré qui j'étais en réalité. Et ce jour-là, j'ai pleuré et j'ai réalisé qu'en fait, dans mon cœur, il y avait les mêmes pensées que les autres avaient déjà mis en acte. Mais que je n'étais pas meilleur qu'eux. La seule différence, c'est que j'avais réussi à le contenir à l'intérieur. Ça ne s'était pas encore manifesté à l'extérieur. Peut-être ce soir es-tu l'une de ceux ou de celles-là. J'aimerais te dire que tu es mort aux yeux de Dieu. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu as beau, eh bien, avoir l'apparence encore. Vous savez, ça m'a tellement marqué, ce jeune homme. C'est marquant. Ça, ce sont des faits que vous n'oubliez jamais. Jamais. Quand je suis entré dans cette chambre, quand j'entendais les hurlements de la maman, les hurlements de la fiancée, quand je les voyais l'embrasser, il n'était plus là. Il n'était plus là. Il n'était plus là, c'était fini. Il avait beau ne pas être dans un cercueil, il avait beau encore avoir les habits du jour, il avait beau, il n'était plus là. Ce soir, j'aimerais te dire, tu juges peut-être que tu es bon. Tu penses par rapport à toi-même que tu es bon, tu t'es fixé une valeur étalon toi-même. Je vous l'ai déjà dit, quand tu te regardes seul dans la glace, tu es toujours le plus beau en général. C'est quand un autre vient se mettre à côté que ça se complique, n'est-ce pas? Tout seul, on est toujours les meilleurs. En nous référant à nous-mêmes, on est toujours les meilleurs. Mais quand les autres commencent à parler de nous, et plus encore que les autres, parce que les autres, au jour du jugement, c'est rien. Mais quand Dieu se met à parler de moi, quand Dieu commence à me montrer qui je suis, voyez-vous, j'étais fils de pasteur. Pourtant, j'étais mort dans mes péchés. J'ai des enfants. Si Jésus ne vient pas dans leur vie, ils sont morts dans leurs péchés. Ils connaissent la Bible, ils vous la citent, et ils emploient les versets qui les arrangent quand ça les arrange. Pas de problème. Vous l'avez déjà raconté, j'avais mon petit garçon et ma petite fille Sarah. À l'époque, ils étaient très petits, puisqu'elle avait 5 ans et lui 4 ans. Et de retour de l'école maternelle, Sarah avait fait des gâteaux pour la première fois. Et elle avait un petit paquet, je me souviens toujours, un petit paquet. Elle vient chez moi, elle me dit « Papa, je t'ai fait des gâteaux, ils sont que pour toi !» Bien, merci Sarah. Et puis tout d'un coup, j'entends hurler, crier. Jonathan avait essayé de faire un attentat, choper le paquet et lui manger. Et puis Sarah hurle « Non, c'est pour papa, je t'en donne pas !» On se met à table, on prie avant le repas, et puis je vois Jonathan les poings comme ça, et Sarah qui me regarde, elle me dit « Papa, hein, je sais pas bien ce qu'il fait Jonathan. Hein. » Il a dit « Je te cause plus. » Et pourtant Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » J'avais le souffle coupé. Et ça, c'est beau. Et voilà que Jonathan, qui a un peu de réplique, lui dit « Oui, mais Jésus aussi, il a dit « Donnez-vous les petits gâteaux les uns aux autres. » Ah, ils savent la citer, la Bible. Ils savent la forger à leur manière. Un jour, il mord son frère, je lui mets une imposition des mains un peu plus bas que d'habitude. Il me dit « Papa, c'est pas bien, Jésus a dit ne rendez pas le mal pour le mal. » Je lui dis « Sacré filou. » Ah oui, ils connaissent. Ils connaissent pourtant, si Jésus ne rentre pas dans leur vie, ils sont perdus et je le sais. J'étais enfant de pasteur, mais si Jésus n'était pas venu dans ma vie, j'étais comme les autres et peut-être pire que les autres. Oh, tout ce que je pensais ne se voyait pas, heureusement. Toute la haine que je pouvais parfois avoir au fond de mon cœur ne se voyait pas. Toutes les pensées de convoitise ne se voyaient pas forcément. Mais elles étaient là, il a fallu que le Sauveur vienne et me sauve. Et j'aimerais dire aux jeunes ce soir, ne vous imaginez pas parce que vous êtes enfants de chrétiens que ça suffit. Ne pensez pas que parce que vous allez aux écoles du dimanche, vous êtes sauvés. Ça ne veut rien dire. Tu peux aller aux écoles du dimanche, parler comme un chrétien, chanter et tout, et pourtant être perdu si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Sauveur personnel. Si tu ne t'es pas détourné de tes péchés, si tu ne t'es pas repenti, tu es aussi perdu que je l'étais avant de recevoir Jésus. Il a fallu qu'il vienne. Il a fallu qu'il change ma vie. Ah, le fils de Jean, Samuel. C'est pas toujours marrant d'être fils de pasteur, je vous assure. Parce que tout le monde s'attend à vous voir plus saint que les autres. C'est pas marrant. Quand on vous met une étiquette, les autres, ils ont le droit de faire des bêtises, pas le fils du pasteur. Parce que lui, normalement, il est parfait. Et moi, j'étais parfaitement à côté. J'avais l'impression que parfois, on avait tendance à le faire d'autant plus exprès qu'on nous mettait dans une certaine catégorie. Tu as besoin, mon ami, tu as besoin, jeune, de rencontrer Jésus. Car tu es mort aux yeux de Dieu si tu ne l'as pas fait. Et mon ami, si tu es mort maintenant, alors que tu es vivant dans ton corps, je veux te dire que si tu devais partir ce soir, ce serait pour l'éternité. On vous dit, j'ai le temps. J'ai enterré de mes collègues de classe. Pourtant, je ne fais pas partie des plus âgés. Je ne suis pas encore fossilisé. Mais j'ai enterré des collègues de classe. Ils sont déjà dans l'au-delà. Je ne sais pas quel était leur choix ou leur décision, que Dieu me garde de juger. Je sais une chose, c'est que si Jésus devait me reprendre ce soir, je sais, je suis sauvé. Je sais. On ne me l'a pas appris. On ne m'a pas dit, récite, tu es sauvé. C'est quelque chose que je sais, c'est là. Et personne ne peut me le prendre. Le fils de la veuve de Naïn, chez lui, la mort est déjà plus flagrante. Si c'était privé chez la fille de Jaïrus, là, tout le monde le sait. Le cortège le suit, le village prend part. C'est su et connu de tout le monde. Lui a déjà moins d'amis, plus personne qui ne l'embrasse, plus personne qui l'entoure. Il est porté à d'autres porteurs. On porte son cercueil en terre. Il me fait penser à cette catégorie de gens qui n'ont plus de retenue quant au péché. Ils n'ont plus de retenue. Et très souvent, sont encore fiers de leur péché. Ils trompent leur femme. Ils volent. Ils mentent. Lorsqu'ils peuvent escroquer quelqu'un, ils le font. Ça ne les gêne plus. On peut le savoir, qu'est-ce que ça peut leur faire. On me dira, l'important c'est que je profite de la vie. Moi, je profite, moi. Au détriment des autres. J'en ai rien à faire des autres. À chacun son problème. C'est ouvertement qu'ils le font. On les connaît comme des menteurs, comme des voleurs. Et souvent, on les évite. Ils sont déjà bien plus seuls que la fille de Jaïrus. Ils sont isolés. Mais voyez-vous, ils sont l'un et l'autre morts aux yeux de Dieu. Et l'un et l'autre a besoin de la grâce de Dieu. Et j'ai vu, et je bénis le Seigneur, que dans les deux cas, Jésus est encore aujourd'hui capable d'intervenir. Peut-être êtes-vous de cela ce soir. Vous dites, mais moi je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis un menteur, je reconnais que je suis un voleur, je reconnais que je suis un adultère, je le reconnais. Mais je veux que ça change. Je veux recevoir la vie. Je veux que ça change. Je veux que ma vie change, que je devienne une autre créature, si c'est encore possible. Je veux que ma marche, permettez-moi, funèbre, s'arrête. Que ça prenne fin. Car voyez-vous, si vous ne vous arrêtez pas à ce stade-là, eh bien, vous arriverez au stade où se trouvait Lazare. Lazare est mort et enseveli. Il est dans sa tombe. Il est seul. Il est isolé. Mes amis, combien d'hommes, de femmes, de par leur péché, se sont retrouvés dans ce stade-là? Combien d'hommes et de femmes sont arrivés à un tel stade qu'ils n'ont même plus le courage de parler de ce qui leur passe par la tête? Combien d'hommes et de femmes sont liés par leur péché, liés par leur vice? Au stade où pour assouvir leurs vices, ils attendent que la famille se couche pour regarder certaines vidéos qu'ils ne voudraient surtout pas que leurs enfants un jour voient. Mais eux sont tellement liés, tellement prisonniers du sexe, tellement prisonniers de l'alcool, tellement prisonniers de la drogue, qu'ils sont isolés. J'ai vu des drogués isolés, comme dans un sépulcre, comme dans une tombe. Isolés. J'ai entendu le témoignage d'une mère qui me disait « Je préférais savoir mon fils mort que de le voir vivre comme il vit. » Même plus les parents, des parents dégoûtés, des parents désorientés, des parents qui ne savent plus comment aider. Quand des parents vous disent « Mon fils m'a volé, m'a séquestré, m'a frappé pour prendre l'argent. » Quand un fils a tout fait, a vidé des comptes en banque, a truandé sa grand-mère, son grand-père, sa tante, sa mère, tout ce que vous voulez. Arrive un moment où il se trouve tout seul. Ses collègues se méfient de lui, tout le monde se méfie de lui, il est seul, il est isolé. Ces alcooliques qui sont seuls, dès le matin quand ils se réveillent, les mains qui font comme ça. Leurs enfants les fuient, ont peur d'eux, lorsqu'ils entendent la porte le soir, papa rentre. Les enfants sous le lit, les enfants qui partent par la fenêtre, les enfants qui sortent de partout. Mes amis, ce sont des hommes seuls, ils sentent. On ne veut plus avoir de contact avec eux, ils sont comme Lazare dans leur vice. L'autre jour, ma femme revient d'une visite en prison. Elle me dit, il y a un type là-bas qui est condamné pour avoir violé une petite fille de 6 mois. Il l'a tuée. Mes amis, si vous ne vous arrêtez pas sur la voie du péché, le péché qui a un effet corrupteur comme la mort, un effet corrupteur sur le corps, vous emmènera petit à petit, mais inexorablement, au pire des choses. Au pire, croyez-vous que lorsque cet homme était enfant à 3 ans ou à 10 ans même, il pensait un jour faire une chose pareille? Croyez-vous cela? J'ai jamais vu une petite fille me dire « Plus tard, je voudrais être prostituée ». Jamais. Elles m'ont toujours dit « Je veux être institutrice, je veux être infirmière, je veux être docteur, je veux être pharmacienne, je veux être vétérinaire. » Mais jamais je veux faire le trottoir. Il y a le péché, cette semence corruptrice qui est là, et s'il n'y a pas un sauveur qui libère, qui pardonne et qui délivre, détruit celui qui en est atteint. J'ai entendu la confession d'un tueur, Ted Bundy, on en a entendu parler l'autre jour, moi je l'avais entendu sur cassette. Cet homme a été condamné aux États-Unis pour l'assassinat, je crois, de 22 femmes et enfants. Il y avait des enfants et des femmes dans toutes les personnes qu'il a malheureusement assassinées de manière cruelle. Et cet homme dira la chose suivante. Il dira, je n'étais pas du tout destiné à cela. Quelques heures avant qu'il passe à la chaise électrique, on l'a interviewé. Elle disait, jamais je ne pensais devenir un jour comme ça. Jamais, jamais. Jamais j'aurais pensé devenir cela. Mais à 13 ans, nous ramassions les journaux, vous savez comme le font les scouts parfois. Et je suis tombé sur les premières revues pornographiques. Je ne connaissais pas. On avait été élevés dans une famille pieuse, on allait à l'église tous les dimanches. Et là, j'ai commencé à découvrir ce genre de lecture. Et puis, j'en ai cherché d'autres, et au bout d'un moment, j'avais besoin de plus de lectures pareilles, alors j'allais en acheter. Et plus je grandissais, plus cela devenait un besoin. Après les lectures, ce furent les films. Et les films, eh bien, il fallait qu'ils soient de plus en plus noirs. Il fallait qu'ils soient de plus en plus sales. Et après avoir consommé ce que je trouvais de plus sale, il fallait que je le fasse moi-même. Et il dit à la fin, il fallait que je voie des viols avec meurtre. Il fallait que je le voie. Je me nourrissais de cela. Et j'ai commencé moi-même à tomber là-dedans. À ce moment-là, il dira, je n'étais plus maître de moi-même. Je n'étais plus maître. Je me culpabilisais. J'étais malheureux. Lorsque j'avais fait ce genre de choses, j'étais tourmenté intérieurement. Tourmenté. Et ça ne prenait plus de fin. J'étais tourmenté. Et puis, le temps est venu où, après avoir assouvi ce genre de choses, il disait, je regrettais ce que j'avais fait. Je regrettais. Il dira, j'étais monsieur tout le monde. J'allais au bureau avec mes collègues tous les matins. Mes parents, jamais n'auraient soupçonné cela. Mes amis, jamais. Personne. J'étais comme monsieur tout le monde. Mais dans son péché, il était comme Lazare dans son sépulcre, derrière sa pierre. Pour assouvir, il devait être caché. Et un jour, il s'est fait prendre. Il dira, je mérite la peine de mort, je la mérite. Mais dira-t-il, je dénonce la pornographie, je dénonce toutes ces choses-là. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes, il le dira, vous avez dans vos villes, dans vos villages, des hommes et des hommes comme moi, j'en étais un. Et un jour, si cette corruption ne s'arrête pas, si on n'arrête pas de les nourrir avec cela, ils deviendront des têtes bandits comme moi. Mes amis, lorsque le péché est là, il se nourrit, il grandit et il détruit. Lazare était mort, mais il n'était pas plus mort que la petite fille. Et la petite fille n'était pas moins morte que Lazare ce soir. On me dirait, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne bois pas. Mais moi je ne suis pas comme ça. Pasteur, je suis à mille lieues d'être comme cela. Mais j'aimerais te dire ce soir, si Jésus n'est pas venu dans ton cœur, tu es morte. Tu es mort. Tu n'es pas comme ça. Tu es mort. Et si le péché continue, il te corrompra, il te détruira. Comme la mort corrompt le corps physique. Tu ne seras pas meilleur que les autres. Devant le trône de Dieu, tu ne seras pas meilleur que les autres. Alors béni soit Dieu, voyez-vous, eh bien Jésus va les ressusciter. La petite fille, il va simplement lui dire, lève-toi. Une simple parole. Il a suffi que Dieu me parle lorsque j'étais enfant, très doucement, simplement. J'étais interpellé de manière très simple. Ça n'a pas été, eh bien, de grandes secousses. C'était tout simplement une parole de l'Esprit qui est venue dans mon cœur, qui a réveillé ma conscience. J'ai pris conscience que j'étais autant perdu que les autres. Je n'avais pas fait les mêmes choses qu'eux, mais j'étais autant coupable qu'eux. Et j'étais sauvé. Et même si je n'étais pas parfait, alors que j'étais encore jeune homme, et 13 ans était pour moi une étape importante, eh bien je savais que j'étais sauvé, j'appartenais à Jésus-Christ. Je n'étais pas parfait par la suite. Je suis d'ailleurs encore en route pour la perfection. Je ne suis pas aujourd'hui encore. Mais je savais, je suis sauvé, Jésus est dans mon cœur. Mes amis, dans le cas de ce fils de la veuve de Naïn, il est dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi ce soir, Dieu veut t'arrêter. Tu es sur la voie de la destruction. Tu es sur le chemin pour devenir comme Lazare. Mais Dieu veut t'arrêter. Jésus veut t'arrêter. Il veut te permettre de quitter ton cortège. Le jeune homme qui avait abandonné son père, le fils prodigue, sera arrêté à un moment donné. Là, au plus profond de sa fosse, il se relèvera et dira, j'irai vers mon père et je lui dirai. Ce soir, peut-être, tu te rends compte, tu as commencé à prendre des plis. Tu mens naturellement, tu voles, ça ne te gêne plus. Si tu devais tromper ta femme, ça ne te gênerait pas. Tu l'as peut-être déjà fait, tu ne t'en es jamais repenti. Peut-être qu'il y a une femme qui l'a déjà fait, vous ne vous en êtes jamais repenti. Vous avez besoin de Jésus. Ce soir, je vous en conjure, ne restez pas comme ça. Je vous en supplie, si ce soir, il fallait que vous mouriez, savez-vous où vous allez? Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Pouvez-vous dire, je sais, je suis sauvé, je sais. Je ne sais pas parce qu'il l'a dit, je ne sais pas parce qu'il l'a prêché, je sais parce que l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et puis Lazare, eh bien Lazare, Jésus va dire, ôtez la pierre. Et puis, il dira, ayant dit cela, verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, d'une voix forte. Dans les autres cas de résurrection, jamais Jésus ne criera. Mais là, Jésus va crier, Lazare sort. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus fera d'autant plus d'efforts que tu es enfoncé dans le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce soir, tu me dis, mais je suis le plus minable des minables. Eh bien, j'aimerais te dire que c'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Et plus profondément, un jour, j'entendais cette phrase, elle est fameuse. Jésus est même prêt à sauver les rebuts de l'enfer. Même ceux que le diable ne voudrait pas, Jésus est prêt à les sauver. Les pires des pires. Le brigand sur la croix, il était prêt à le sauver et il l'a sauvé. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis et ce soir, tu peux entendre cette parole dans ton cœur. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, non pas que tu partes aujourd'hui, mais que tu aies la paix dans ton cœur. La paix. Heureux. En paix avec toi-même, en paix avec les autres, en paix avec Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois lié. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois détruit par le péché. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux et que tu rendes les autres malheureux. Et j'aimerais terminer par une histoire que j'ai entendue un jour. C'était un paysan aux États-Unis qui, eh bien, découvre un œuf à une certaine hauteur. Et intrigué, il le prend avec lui. Et voyant l'œuf, il connaissait ce genre d'œuf, c'était un œuf d'aigle. Il l'emmène avec lui et il le place sous une de ses poules qui était en train de couver ses œufs. Vous savez qu'une poule, ça couve tout. Elle restera dessus jusqu'à ce qu'il y ait éclosion. Si c'est un œuf de canard, elle restera dessus, bien que l'œuf de canard, il faut plus longtemps. Et puis... assis sur ses œufs un peu déséquilibrés parce qu'il y avait un œuf plus grand. Les premiers œufs ont commencé à s'ouvrir, éclosion. Puis de jolis petits poussins, tchip, 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 tchip. Vous avez déjà vu les poussins comme c'est beau? Sont sortis. Mais l'œuf, le gros œuf, lui... Pff. Alors il a attendu, il est resté dessus, et encore resté dessus. Et un beau jour, un craquement. Alors tous les petits poussins sont venus voir. Quel est ce frère? Puis le frère est sorti de l'œuf avec un nez. Il n'était pas jaune, il était gris. Et puis tous les petits poussins se sont dit, qu'est-ce qu'il est moche celui-là? Qu'est-ce qu'il est moche? Et puis notre petit aiglon est sorti et a commencé à imiter ses frères. La poule partait, les petits suivaient. Et mon petit aiglon derrière marchait comme une poule. Il a commencé à imiter les poules. Elles montaient sur le fumier pour chercher des œufs. Mon petit aiglon montait sur le fumier pour chercher des œufs, des vers, des œufs sur le fumier. Elles allaient dans la basse-cour pour gratter par terre. Mon petit aiglon, il grattait par terre comme une vieille poule. C'était pas sa nature d'être une poule, mais il n'avait jamais connu quelque chose d'autre. Il vivait comme une poule, sous le tas de fumier, en train de gratter comme une poule. Puis il a grandi, puis il est devenu plus grand que les autres. Mais il marchait toujours encore comme une poule, fonctionnait comme une poule, mangeait comme une poule, avait l'attitude d'une poule. Et un beau jour, dira le paysan, alors qu'il était là occupé à ses différentes affaires, voilà que dans le ciel, il y a un cri. Et le paysan lève les yeux et voit un aigle qui tourne et qui crie au cri qui a lieu. Le petit aiglon se met à frémir. Il n'avait jamais entendu un tel cri. Il avait bien imité, essayé d'imiter les poules. La poule, c'était... Elle est... Moi, c'est plus que bon pour une soupe, celle-là. Elle est fichue, la mienne. Puis lui, il essayait derrière. Arrivait pas. Et soudain, un cri dans le ciel. Il frémit. Regarde au ciel. Et là, voit un aigle. Et puis le cri retentit encore une fois. C'est comme si l'on avait électrifié l'aiglon. Ses plumes se mettent à bouger. Il se rend compte qu'il y a là quelqu'un qui l'appelle. Il y a un instinct qui l'attire. Et soudain, eh bien, il voit les battements et le cri retentit encore une fois. Il commence à étendre ses ailes. Il commence à battre des ailes et tout d'un coup, il s'élève. Et il se rend compte que celle qu'il appelle là-haut, c'est sa mère. Il s'élève et tout d'un coup, il est au-dessus de la basse-cour. Ses frères, ses sœurs regardent là sur leur fumier. Puis se met à dire, adieu vieille poule, adieu vieille poule, je suis un aigle. J'aimerais te dire ce soir, tu peux dire adieu pécheur, je suis sauvé par Jésus. Jésus ne m'a pas créé pour que je sois dans la misère, dans la drogue, dans l'alcool, dans le péché, dans le mensonge. Jésus m'a créé pour que je vive une vie heureuse, sainte, dans la joie et dans la paix ce soir. Tu peux toi aussi t'élever au-dessus de ta misère, t'élever au-delà de tes chaînes. Jésus brisera tes chaînes. Lazare avait des bandelettes, il dira, déliez-le. Es-tu lié par l'occultisme? Es-tu lié par le péché? Jésus veut briser ta chaîne et te rendre libre. Amen. Maintenant, si tu veux rester une vieille poule, personne t'en empêchera. Jésus ne s'est jamais imposé, mais ce soir, il y a un cri d'amour qui dit, viens. Viens, je t'appelle, viens à moi, tu as besoin d'être sauvé. Oh, quelle que soit la catégorie ce soir, à laquelle vous appartenez, petite fille de Jaïrus, vous n'êtes pas le grand pécheur, mais vous êtes mort. Vous êtes comme le fils de la veuve de Naïn, vous péchez et vous vous rendez compte que, eh bien, cela devient une habitude, vous êtes mort. Vous êtes comme Lazare, vous êtes mort. Mais j'aimerais vous dire que Jésus veut vous ressusciter ce soir à la vie éternelle. Amen. Courbons nos fronts dans la prière.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.